Radio Barque. Donc, pour notre 20e, notre invité est Henri Martin, comme je le disais en tout début d'émission. Alors, on va, avec vos diverses casquettes, monsieur Martin, ben, on va un petit peu parcourir des domaines différents, c'est logique. Une première, peut-être, question, alors, qui ne vous concerne pas directement dans la mesure où c'est du privé, il y a eu un conflit social chez vous, dans votre commune, mais c'est quand même la grande entreprise, j'imagine, privée de votre commune. Ça s'est bien fini, apparemment, à la cimenterie Lafarge.
Oui, apparemment, un consensus a été trouvé. Et le mouvement a cessé, mais évidemment, le maire que je suis s'en est ému, comme d'ailleurs je me suis ému il y a quelques années de la baisse de production dramatique de l'usine pour la nouvelle, qui est passée de 800 ou 900 000 tonnes, je crois, à 400 000, limite de décrochage et même de la continuité de l'usine. Je m'intéresse particulièrement, évidemment, au destin de ces économies, comme certainement le président de Grand Narbonne doit s'y intéresser, puisque Lafarge fait partie des grandes opérations économique du secteur, des grands opérateurs économiques du secteur.
Oui, et puis des financeurs.
Et des financeurs. Oui, et puis bon, on surveille de près donc le nouveau mariage Holcim-Lafarge, pour voir un petit peu
comment
la façon
ça va
dont s'articule. Apparemment, donc, c'est le côté suisse maintenant qui prend la suprématie, avec un ancien patron de Sika. Et donc, il faut être bien entendu vigilant. Mais j'ai constaté une vigueur syndicale qui est rassurante d'un côté, et rassurante de l'autre aussi, puisqu'il y a beaucoup de maturité dans le comportement. Et lorsque l'éclaircie a été possible, ils ont remis le four en marche. Ça voulait dire on est disposé à travailler, on n'est pas que des empêcheurs de tourner en rond. La direction leur a emboîté le pas et ils ont trouvé donc un arrangement qui semble satisfaisant pour les deux parties.
Voilà, donc un conflit qui finit bien finalement, comme on souhaiterait que ça soit le cas un peu plus souvent. Bon. En tant que maire, alors quelques affaires sur votre commune. Quand on suit les conseils municipaux récents, on s'aperçoit par exemple que vous avez mis en délégation de service public le camping qui jadis était municipal. Pourquoi avoir attendu si longtemps ?
Attendu.
Parce que ça serait plus peut-être conforme à votre philosophie libérale, ce système-là, non ?
Oui, libéralisme non exacerbé quand même.
Oui,
simplement, ce camping est une infrastructure qui commence à vieillir et sur laquelle il faut investir. Et je ne pense pas que le métier d'une commune soit de gérer un camping. Il y a 220 emplacements, il faut les reviabiliser, il faut les équiper. Et au travers de cette opération de délégation de services publics, nous allons valoriser ce camping et monter en gamme au niveau de la fréquentation et par conséquent valoriser aussi le patrimoine. Car en fin de délégation, ceux qui viendront après nous, ou en cours de délégation, parce que toutes les négociations sont possibles, ils vont récupérer un patrimoine qui aura été valorisé par rapport à ce qu'il est actuellement. Voilà, donc nous sommes particulièrement satisfaits de l'opération, puisque nous avons finalement contractualisé avec le Mieux-Disant, qui se trouve être un partenaire déjà des villes de Narbonne, des villes de Sigean, et dont je n'ai eu que de très bons échos.
Bien. Alors toujours en ce qui concerne le maire de Port-la-Nouvelle, on a évoqué il n'y a pas très longtemps avec Madame Sandranier la désertification médicale, c'est-à-dire en fait la disparition des médecins libéraux un petit peu partout dans nos communes, dans nos villes et dans nos campagnes. Et alors vous avez innové en quelque sorte, il y a quelque temps, vous avez lancé un système différent qui fait que vous avez salarié sur votre commune un certain nombre de médecins. Expliquez-nous.
Absolument. C'est une innovation accidentelle, si je puis m'exprimer ainsi. En fait, il y a une dizaine d'années, il y avait 5 médecins généralistes à Port-la-Nouvelle, puisque quand on parle de désertification médicale, ça signifie qu'il n'y a plus de médecins généralistes. Bon. Il y avait 5
Et parfois de spécialistes aussi, d'ailleurs. Parfois aussi.
Oui, sur les villes moyennes et les villages, c'est moins évident. Hein. C'est surtout donc le médecin généraliste, tel qu'on le connaissait à l'époque, qui faisait partie des grands piliers visuels et affectifs du paysage, de la composition d'un paysage, d'un village ou d'une ville moyenne. Et le notaire, et puis le curé aussi, n'oublions pas, monseigneur. Donc, nous avions 5 médecins. Il se trouve que 2 d'entre eux sont malheureusement décédés. Le cinquième a cédé son cabinet médical à un successeur qui, visiblement, ne s'est pas montré intéressé par cette profession de généraliste et a voulu se spécialiser en psychiatrie, donc a quitté le cabinet, dont nous avions 2 médecins généralistes, qui, l'un et l'autre, souhaitaient prendre deux voies différentes. Nous avons réalisé une sorte d'enquête et d'audit auprès de la population pour savoir quelles étaient les attentes en matière de médicale, aussi bien généraliste, bien sûr, que spécialiste.
Ah, vous avez fait un sondage, une sorte de sondage.
En quelque sorte, c'est une étude très officielle d'où il est ressorti certaines carences de soins en matière de certains soins particuliers, que je ne vous indiquerai pas, bien entendu, aujourd'hui. Nous avons donc décidé de créer une structure municipale de 600 mètres carrés, qui a été ouverte d'ailleurs l'année suivante, et qui permettrait de fédérer tous ces médecins et toutes les professions médicales et paramédicales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui nous avons 15 intervenants dans ce centre, outre les médecins généralistes. Nous avons un chirurgien orthopédiste qui vient de l'hôpital, diabétologue, endocrinologue, une sage-femme, c'est important, des infirmiers, donc 4-5 infirmiers, une psychologue, une diététicienne, une orthophoniste, une pédicure, des masseurs kinésithérapeutes, une ergothérapeute, une sophrologue, une hypnothérapeute et une conseillère en lactation.
Dans un bâtiment donc municipal ?
Dans un bâtiment municipal. Et il se trouve donc, ce qui est donc une maison médicale,
pluridisciplinaire, véritablement.
Et c'est dans la mesure où nous n'avons pas eu de candidature complémentaire de médecins généralistes et que les deux restants s'étaient séparés, nous nous retrouvions avec un seul généraliste dans le centre municipal. Et donc à partir de là, nous avons essayé de démarcher l'opération, puisque nous nous sommes rendus compte, et c'est souligné régulièrement, que le médecin que nous avons connu, vous et moi, qui fait 55 heures par semaine, beaucoup de kilomètres, et qui travaille tous les jours, même le dimanche, donc a tendance à disparaître, et il veut donc une qualité de vie différente. Il a une vision du métier qui est en train de changer, et qui a été reprise d'ailleurs en ces termes par la directrice de l'ARS récemment. La pratique de soins qui se profile est celle de médecins qui travaillent sur une amplitude horaire moins grande dans le cadre d'une pratique plus collégiale. Donc le salariat, à nos yeux, correspondait parfaitement à ce type de souhait des médecins. Et nous avons pris pour modèle une communauté de communes qui se trouve dans le secteur de La Ferté-sur-Sarthe, et où les choses se déroulaient...
Chez Monsieur Fillon ?
Absolument. Où les choses se déroulaient, ceci est un hasard, en fait c'est un pur hasard, c'est un praticien qui avait exercé à La Palme et qui donne cet insight là-bas et qui nous a fait bénéficier de l'expérience. Donc, il s'agissait à partir de là de faire cohabiter un centre municipal de santé, donc avec des praticiens libéraux, dans un centre médical pluridisciplinaire, puisque ce sont deux entités officiellement différentes. Donc, il y a eu pas mal de difficultés administratives, vous saurez le comprendre. Et puis, il a fallu mettre en exergue également un volet prévention, un volet d'offre de soins ambulatoires. Il se trouve que du côté du volet prévention, la commune menait depuis plusieurs années un programme de lutte contre l'obésité infantile. Et donc, nous avons pu l'intégrer dans le projet. Ce qui fait que les autorités de santé ont validé notre projet dans un premier temps.
Ce salariat concerne uniquement les médecins généralistes ou d'autres ?
Le salariat ne concerne que des médecins généralistes qui aujourd'hui sont au nombre de 3. Donc nous avons passé des annonces dans des revues spécialisées. Nous fréquentions, dans le cadre justement de programmes de lutte contre l'obésité infantile, une médecin qui travaillait pour la PMI et qui, elle, voulait se rapprocher territorialement du secteur pour la nouvelle FITU. Elle nous a rejoint. Et deux médecins qui étaient dans le secteur de Paris nous ont rejoint. C'était des médecins libéraux qui, pour des raisons d'organisation familiale, souhaitaient venir sur le secteur dans l'axe Narbonne-Perpignan, puisqu'ils avaient de la famille aux alentours. Voilà. Mmh. Et donc, le médecin coordonnateur est la doctoresse, et la machine s'est mise en route comme ça.
Et quel statut, alors, quel statut ont, à part qu'ils sont salariés, ils sont salariés de qui aujourd'hui ? De la commune ?
Ils sont salariés de la commune de Port-la-Nouvelle. C'est un contrat de droit public, puisque il met en présence une commune et des particuliers. Ils ont un contrat de travail. Ils ont un rythme de travail de 35 heures par semaine. Ils ont 5 semaines de congés payés. Ils sont payés par rapport à la grille des médecins hospitaliers, donc qui est aux alentours de 4 à 5 000 euros par mois. Et dans la mise à disposition de ces médecins, nous mettons dans les locaux, bien entendu, leur cabinet, et un équivalent temps plein, un 0,7, un 0,8 équivalent temps plein, pour ce qui est de l'accueil et du traitement des honoraires. Car ce qu'il faut souligner, c'est que ce sont des médecins qui font effectivement les heures complètes de médecine. Il n'y a plus tout le côté administratif qui est très lourd dans le, oui, dans donc, le quotidien de médecin généraliste. Voilà. Donc nous nous retrouvons avec trois médecins qui, de façon permanente, font de la médecine dans le centre.
Un dernier mot sur cette affaire, Henri Martin. Ça vous, ce statut-là vous satisfait ou vous souhaiteriez autre chose ?
Je souhaiterais, et les événements feront, que ce statut sera évolutif, puisqu'il faut qu'il devienne définitivement un statut de la fonction publique territoriale. En effet, il existe des médecins qui sont salariés par le département, les PMI, je l'ai évoqué. Il existe des médecins hospitaliers, dans le milieu hospitalier.
Ça, c'est la fonction publique nationale, hospitalière. Nationale,
mais il n'existe pas de médecins dans la fonction publique territoriale. Et pourquoi pas demain l'envisager ? Et d'ailleurs, je me suis rapproché d'un ami de M. Santo, du sénateur Courteau, qui a porté un projet de loi qui actuellement est à l'étude et qui a été d'ailleurs particulièrement bien accueilli. Il a été accueilli d'une façon un petit peu tiède au niveau des maires de France, mais par contre, il a été très bien accueilli auprès des maires ruraux. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent ce problème de désertification.
Oui, ils sont peut-être plus touchés, cruellement touchés.
Le tout, c'est qu'il ne puisse pas y avoir de surenchère dans les propositions qu'on sera appelé à faire aux médecins. Le tout qui est un cadre d'emploi très officialisé, parce que demain ou après-demain, un médecin salarié d'une commune ou d'intercommunalité qui se trouve dans le nord de la France a envie de descendre, réorganiser sa vie personnelle, veut changer de lieu et il doit pouvoir trouver de nouveau le cadre d'emploi
identique au niveau national. Une remarque,
oui,
Michel.
D'un point de vue technique, mais ça c'est l'ancien techno d'une région et de l'État qui parle, c'est qu'il serait beaucoup plus cohérent que les médecins en question soient salariés et recrutés par la collectivité qui a la compétence en matière de santé. Que le département, quitte après bon, à ce que le département mette à disposition ses moyens humains dans des intercommunalités ou dans des villages.
Voilà, mais faudra en parler à votre ami M. Courteau, Michel Santo.
Oui, voilà, je ne connais pas sa proposition de loi. Je vais effectivement aller faire un tour pour en connaître le contenu.
Alors, revenons à Henri Martin et à Port-la-Nouvelle. Vous êtes également donc vice-président de l'AGLO, chargé notamment des grands projets. En matière d'agglomération, au 1er janvier, il y a eu un petit changement dans la mesure où ce qu'on appelle la GEMAPI, c'est-à-dire la gestion, grosso modo, la gestion des inondations, on va dire, pour être simple, est devenue une compétence
communautaire.
Oui. Alors qu'auparavant, c'était un petit peu c'était différent.
C'était des syndicats.
Oui. Qu'est-ce que ça a changé, par exemple, pour la commune de Port-la-Nouvelle, Henri Martin ?
À aujourd'hui, ça n'a pas changé grand-chose, sinon qu'il ne s'agit pas uniquement de fédérer les anciens syndicats, mais d'y rajouter des compétences nouvelles, et en particulier une compétence nouvelle qui nous inquiète particulièrement, c'est celle qui s'appelle submersion marine. Voilà.
C'est-à-dire les coups de mer.
C'est-à-dire les coups de mer, oui. et les dangers qui est lié à la montée des eaux. Voilà. Là, par contre, tout le monde est un petit peu inquiet, car incapable de budgéter la moindre ligne qui soit crédible, puisque là, on joue sur l'avenir, et surtout pouvoir maîtriser cette nouvelle compétence qui, jusqu'à présent, incombait finalement à l'État.
À l'État, oui. Et évidemment, là, forcément, votre commune, Port-la-Nouvelle, est en première ligne.
Elle est en première ligne. Elle a toujours été en première ligne au titre de la solidarité, puisque nous contribuions aux destinées du syndicat de la Berre et du Rieu, le Rieu étant un ruisseau paisible. Par contre, sur la Berre, la contribution de Port-la-Nouvelle était importante. Ça ne changera pas grand-chose dans la contribution elle-même, si donc elle va évoluer. Il faut que les choses évoluent, puisque nous allons nous structurer de façon différente. Ça, c'est pas tellement le problème. Mais c'est surtout au travers de cette nouvelle compétence que je suis un petit peu inquiet pour tous les autres, pas pour nous. Nous serions malheureusement bénéficiaires de ces prébendes si un jour il y avait un PPM dû à un coup de mer, mais par contre les autres derrière devraient cotiser pour ça, alors que déjà ils ont pas mal de problèmes hydrauliques à gérer chez eux.
Oui, et notamment par exemple la Berre, vous l'évoquiez, les fameux caprices de la Berre qui font des dégâts sur d'autres communes dans l'arrière-pays. La dernière touchée est en Sigean, je pense.
La dernière commune qui est le plus impactée,
avant
Sigean,
l'embouchure dans les
puisque,
temps
voilà,
de l'âge.
Oui. Et avant d'arriver sur la réserve africaine et puis sur toute la zone d'habitation de Sigean.
Oui, 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 absolument. Bien, et alors, en ce qui concerne l'agglomération également, vous êtes donc des vice-présidents, je le rappelle. Le président actuel, Monsieur Bascou, Jacques Bascou, que nous avions à ce micro il n'y a pas très longtemps, a déclaré récemment et clairement clairement,
confirmé.
Qui est confirmé, qu'il ne serait pas partant pour les prochaines élections, ni pour la mairie, ni même pour l'agglomération. Alors, vous, en tant qu'un des vice-présidents, et puis, rappelons-le également, président d'un des groupes qui siège dans cette assemblée, qu'est-ce que ça, enfin, quel regard jetez-vous là-dessus, et qu'est-ce que ça change potentiellement?
J'ai effectivement...
D'abord, excusez-moi, Henri Martin, vous, la loi n'interdit pas encore de se représenter. Vous, est-ce que vous pensez que vous serez partant aux prochaines municipales?
Quand bien même la loi serait votée, elle ne pourra...
Elle ne prendra pas effet tout de suite.
Voilà. Donc la question ne se pose pas. Et traditionnellement, avant chaque élection, un an avant la fin du mandat, je consulte qui de droit, à la fois mes coéquipiers, à la fois la population au travers d'un sondage, afin de voir l'indice de satisfaction et l'enthousiasme qui serait remis à mon élection, le cas échéant, sur une nouvelle candidature. Je consulte bien entendu mon entourage familial et affectif, et à partir de là, je prends la décision. Donc,
dans un an, quoi.
L'an prochain, voilà, mais ce n'est pas du tout exclu que je ne puisse pas redémarrer, car en effet, et c'est, je crois, ce qui est important, pour pouvoir à nouveau figurer en bonne place à l'agglo. Parce que l'agglomération, ça, c'est devenu une entité...
Incontournable.
Incontournable et surtout très importante. Mmh. Au dernier municipal, l'agglo ne s'est pas invité dans les débats. Alors que le prochain coup, elle va s'inviter. Mmh. Elle va s'inviter. Mmh. Vous parliez tout à l'heure de Jacques Bascou. Jacques Bascou, c'est l'exception nationale d'un conseiller d'opposition d'une ville-centre qui est président de l'agglo.
Oui, d'abord, avec les problèmes à l'avenant, si je puis dire.
Voilà. Oui, là, c'est le côté un peu méridional qui arrive. Mais ce que je veux dire, c'est que à l'avenir, on ne peut plus considérer qu'une agglo puisse être gouvernée sans que la gouvernance d'une agglo soit composée sans des vice-présidents, sans des parties prenantes de la ville-centre. Ça me paraît, je n'ai pas dit que le maire de Narbonne doit être président, et je ne le dirai pas. Et je pense même qu'il ne doit pas l'être. Je vais même plus loin. Mais par contre...
Mais il ne peut pas y avoir une hostilité à son endroit.
Absolument. Voilà. Beaucoup de prérogatives. Et je crois que l'agglo s'invitera au municipal. Alors, le fait que Jacques Bascou, et vous l'a dit donc au micro, là, ne se représente pas, bon, c'est quand même pas un scoop. Qu'il ne se représente pas à la ville de Narbonne, c'est pas tout à fait un scoop, et qu'il ne se représente pas donc à l'agglo, c'est pas un scoop non plus, car je le rappelle, pour pouvoir être président de l'agglo, il faut être élu dans une commune. Alors, en dehors du fait d'aller dans un village ou une commune, une ville moyenne, en disant au maire, pousse-toi que je m'y mette, c'est moi Bascou maintenant qui va faire l'élection, ce qui est une hypothèse qui ne peut pas être envisagée. Donc, je crois que le retrait de Jacques Bascou était déjà acté par beaucoup. Le fait qu'il l'officialise volontairement, puisque il a commenté à votre micro que c'était une fuite, alors que c'était sur le ton de la confidence, en parlant à son groupe. Dans son groupe, il y avait 25 personnes.
Oui.
Je dis pas que Wauquiez l'a fait exprès, puisque lui a dit du mal des autres, et que Bascou n'a parlé que de lui-même. Mais bon, la fuite a été organisée, donc grand bien lui en face. Je crois simplement que c'est peut-être un pacte de stabilité qui signe avec les autres en disant « Bon, écoutez, le prochain coup, je ne serai pas là pour vous chercher grief. Donc j'ai 2 ans de gouvernance encore à accomplir, essayer un petit peu de me ficher la paix. » Est-ce que c'est pour mettre un petit peu d'animation chez ses anciens amis ou chez ses amis pour susciter des vocations, pourquoi pas. Il me fait penser à... À Louis-Philippe. Louis-Philippe, c'est le premier roi des Français, d'ailleurs, et qui est cher au cœur des Nouvelles Lois, puisque c'est lui qui nous a signé l'édit de séparation
avec Saint-Jean.
Voilà. Le hameau de la Nouvelle est devenu une ville. Et Louis-Philippe, donc, se disait, commentait à propos des gens du paysage politique qu'il avait autour de lui des regrettants et des prétendants. Et en relisant ce bouquin il y a quelques jours, je me suis dit que Jacques Bascou, autour de lui, pareil, il y a des regrettants, des gens qui disent, quand même, si on avait su, et puis des prétendants qui se disent, bon, quand Jacques sera plus là, je vais y aller. Et puis il y a les regrettants prétendants qui étaient déjà à la ville et qui se mordent les doigts d'avoir perdu aussi. Donc si vous voulez, est-ce que, parce que Jacques Bascou est quand même, il est quand même capricieux parfois, hein. Alors est-ce qu'il se paie un petit peu cette fantaisie de voir comment vont se comporter les prétendants après cette déclaration ? Pourquoi pas? Bon, je crois que il est quand même fin tacticien, parce que vous l'avez souligné, vous l'avez souligné à demi-mot tout à l'heure. Il a confié les Gemapi, il a donné un grand coup de barre à droite le mois dernier. Il confie Gemapi au maire de Sijan. Il confie la vice-présidence qui était dévolue à un maire de gauche, puisque c'était M. Perea, à Michel Py, le maire de Leucate. Donc, il y a un coup de barre à droite. Il y a le fait de dire, bon, je ne serai pas candidat au prochain coup. Il y a une certaine sympathie, courtoisie qui s'est installée entre Moulier et lui.
Oui,
donc, quand on regarde tout ça, on se dit, ben, après tout, pourquoi pas. Donc, je n'ai pas de commentaire particulier, sinon à égrener tous ces événements qui feront que quelque chose va sortir dans les semaines qui viennent, ou peut-être l'année qui vient, et que des gens lui diront, bon, écoute, Jacques, puisque tu ne te retires pas, on aimerait bien que tu sois un petit peu plus distant à l'aglo, et que tu nous aides à organiser la succession.
Remarque intéressante, depuis quelque temps, on a l'impression que c'est un peu la mère de Sérénité, tout d'un coup.
C'est beaucoup moins tendu que...
Voilà.
Cette mère-là, cette mère...
Il faut savoir se méfier de l'Odidor. Un tout dernier mot, oui. Henri Martin. Donc, bon, vous avez laissé entendre que, même si c'est pas sûr, vous pourriez être encore maire de La Nouvelle prochainement. Vous, aujourd'hui, vous êtes président d'un des groupes de l'aglo. Est-ce que l'aglo, puisque vous disiez il faudra que l'aglo soit posé clairement, le communautaire soit posé clairement aux prochaines municipales, est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait?
En pôle opposition?
Non, soyons clairs, pas du tout.
Si j'avais dû le manifester, j'aurais manifesté lors des dernières élections d'ailleurs, puisque, dois-je le rappeler, si Jacques Bascou est en place, c'est parce que j'ai fait partie de ceux qui ont fait en sorte qu'il soit maintenu à sa place, parce que j'avais joué la continuité, parce que je pensais, comme beaucoup de Narbonnais, que Jacques Bascou serait réélu, parce que je pensais que
maire, vous pensez, et
donc président d'Aglo. Et je pensais, comme beaucoup, qu'en étant maire de gauche de la ville de Narbonne, avec un alignement d'étoiles très favorables ou d'astres favorables, comme le département à gauche, la région à gauche et là-haut le pouvoir à gauche, je m'étais dit, c'est imperdable. De plus, il y avait le projet de musée, etc. C'était imperdable. Donc, nous pensions bien que Jacques Bascou serait réélu. Et à partir de là, nous souhaitions, dans le cadre de cette continuité, qui est souvent synonyme, je le rappelle, de réussite, quand on la trouve dans les communes, parce que si Gruissant a réussi, c'est parce que Codorniou a eu plus de trois mandats. Si Leucate a réussi, c'est parce que Py a eu plus de trois mandats. Si Pour la Nouvelle a réussi, c'est parce que j'ai pu avoir plus de trois mandats.
Donc, pour vous, la stabilité est fondamentale.
Elle est fondamentale, puisque n'importe quelle formalité administrative, on parlait tout à l'heure d'association, de projet, etc., les recours, on ne peut rien faire sur un mandat, sauf à détruire, parce que le sport national, ce qu'a fait le prédécesseur avant d'arriver.
Voilà, pour conclure, pour construire, il faut du temps, et donc il faut plusieurs mandats de...
Voilà, et si mon expérience peut enrichir la progression de l'aglo, je serai donc candidat à une vice-présidence, certainement le prochain coup, et je soutiendrai celui qui me paraît être le meilleur candidat de l'aglo, parce que cumuler les emplois maire d'une ville et maire de l'aglo, je crois quand même que
Vulgaire, c'est pas de la tarte, quoi.
Non, surtout pas. Il faudra peut-être poser le problème clairement.
Il faudra l'assumer. Merci, Henri Martin. Alors, prochaine invitée on parlait des femmes, mais ça sera une femme, ça sera Laure Dandoc, mais ça sera dans deux semaines, puisque la semaine prochaine, pas d'émission Radio Barque pour cause d'indisponibilité de votre serviteur. Donc, Laure Dandoc sera notre invitée pour l'émission du 24 mars, et puis, je le rappelle, après, nous verrons bien Alain Botte, Alain Perea, voilà deux Alain, et puis d'autres invités, et évidemment, des sujets dont Michel, je sais, n'en manquera pas pour la suite. Merci et à la semaine prochaine.
Merci à vous.